On se barre.
On se barre.
On se barre. Bonjour. On se barre toujours ensemble. Je suis Auriane et je continue à chercher des réponses autour des violences conjugales. Dans ce troisième épisode, je reste encore en quête de réponses sur le phénomène de l'emprise. Cette fois, j'ai envie de comprendre ce qui se joue du côté des victimes. Nous avons vu qu'il y avait des fragilités du côté des auteurs, mais nous avons aussi compris qu'il y en avait du côté des victimes. Quelles sont-elles ? J'ai encore sollicité Samie Nelzin pour mieux comprendre tout ce qui se joue. Pour rappel, Samie est psychanalyste et psychologue clinicien, ancien psychologue des aides aux victimes et aujourd'hui coordinateur de projet et adjoint à la direction du cabinet Espace Kairos, un organisme pluridisciplinaire pour la santé humaine et la santé des entreprises basé à Limoges. J'ai été dans le noir trop longtemps. J'étais dans le monde obscur et absurde de mon roi sur son trône. J'étais à lui, à sa merci. Il aimait dire qu'il savait tout mieux que tout le monde et que la société s'acharnait sur lui, qu'elle ne le comprenait pas. Il passait son temps à le gueuler. Alors, il avait bâti un empire plein de solitude et d'amertume. La vie ne l'a pas toujours épargné et c'était les jours de pluie qui l'épanouissaient. Moi aussi, je voulais une place sur son trône, mais je n'en étais jamais digne. Je faisais sans cesse mes preuves. Il faisait froid et j'avais peur. Mais j'avais plongé dans ses yeux un soir de juin, il y a longtemps. Et je me sentais comme son autre. C'était une promesse au destin. J'étais son unique, il était mon sweet prince. Et puis, on n'abandonne jamais l'amour. On cherche à tout prix à rester. On cherche des excuses, ou plutôt on s'en invente pour tenir. Et puis on culpabilise parce que rien ne va vraiment. Il me connaissait par cœur, puisque même s'il s'en défendait, il m'avait par certains côtés un peu façonné à son image. Je crois qu'il était amoureux du fait que je le mettais sur un piédestal. Il m'a vidé d'une partie de moi. Il savait très bien me démontrer que je le mettais dans des états lamentables, que tout était de ma faute. Et puis, parfois, il était fier de moi et je me sentais plus forte. Je voudrais vous dire qu'il faisait la pluie et le beau temps, mais on oscillait plutôt entre les cyclones et la canicule. Il était capable de me dire que j'étais tout pour lui, que je l'aidais à se raccrocher à la vie. Et puis, dans le même temps, je pouvais aussi être la souillon, la perverse narcissique qui le manipulait. Pourquoi je suis allée me brûler les ailes ? Pourquoi je suis restée ? Il y a tant de questions qui ne cessent de me traverser. J'ai donc tout d'abord demandé à Samie comment on reconnaît une personne sous emprise. Pour commencer, il m'a fait une piqûre de rappel sur l'emprise pour bien reposer les bases du sujet avant de parler des victimes.
Ce sont quatre éléments qu'on retrouve la plupart du temps dans les relations d'emprise. Appropriation, dépossession, domination et soumission. Et du point de vue maintenant des personnes victimes, ces dernières rapportent souvent la honte vis-à-vis de ce qu'elles sont, vis-à-vis de ce qu'elles font. On revient à cette tendance à la dévalorisation de soi. Il y a aussi la peur, ça c'est un autre critère, de faire du mal ou d'être réprimandé. Si je le quitte, ça va lui faire du mal, il va en souffrir, je ne peux pas le quitter. Ou si je le quitte, à quel risque je m'expose, à quelle représailles, est-ce qu'il ne va pas me chercher, est-ce qu'il ne va pas essayer de me retrouver. Donc du coup, l'anxiété vis-à-vis des réactions et de l'humeur de celui qui occupe la place de dominant. Le manque de confiance en soi, le manque de confiance en son propre jugement. Et puis la confusion qui va être induite par la rupture avec ce monde interne, sa propre vie affective, psychique, sa vie sociale, relationnelle et ses propres valeurs. On retrouve aussi souvent de l'injustice, avec l'impression de payer une dette ou un sort qui s'acharne sur soi. Et la plupart parlent aussi d'un sentiment d'être dans l'impasse, un sentiment d'impuissance et qui généralement les catapulte dans la déprime. Alors, ça, ce sont les signes, il y en a bien d'autres, hein, qu'on retrouve la plupart du temps dans les relations d'emprise. La honte, la peur, l'anxiété, le manque de confiance en soi, la confusion, hein, je disais, par cette sorte d'embrouille, hein, qui est générée par la succession, hein, des séductions, violences, affections, une sorte de je t'aime moi non plus, on ne sait d'ailleurs même plus trop ce que ça veut dire je t'aime, hein, la confusion. L'injustice, hein, on subit quelque chose qui est extérieur à nous, et derrière, hein, qui peut-être accompagne cette notion de culpabilité, d'une dette, comme si on payait une dette. Et je pense que chez la victime, il y a quelque chose d'une faute qu'elle porte en elle et qui est mise en jeu dans la relation de couple avec l'auteur, peut-être en allant très rapidement, hein, mais qu'elles se font payer quelque chose en se mettant en contact avec celui qui devient finalement leur bourreau.
Oui, et c'est vrai qu'il y a ce côté, oui, tout à fait, le côté dette, effectivement, où comme si on leur devait quelque chose, en fait, parfois, se dire que, effectivement, on les a rencontrés, on les a aimés, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et c'est un peu à la vie, à la mort, en fait, finalement, on peut pas faire autrement parce que c'est comme si on avait fait une promesse au destin. Enfin, c'est très bizarre, effectivement, oui.
Ouais. Hein, il y a cette promesse, alors je pense que ça se joue de soi vis-à-vis de soi, hein, qu'on formule à l'autre. Hein, alors on n'est même plus sûr du contrat, ça prend même l'allure d'un pacte, cette affaire-là.
C'est un pacte. Un pacte signé il y a bien trop longtemps. Quand on ne s'aime pas, quand on pense qu'on n'a pas de valeur parce qu'on n'a pas toujours fait les bons choix. On est parfois tenté ou non d'aller vers des personnes avec qui on va se brûler les ailes. Quand je l'ai rencontré, j'étais très jeune et j'étais en couple. Lui était plus vieux. Je n'étais pas censée lui céder. C'était mal. Une fois que tout était en place, j'avais fauté et je pensais que ça devait être comme ça et pas autrement. Et puis, j'avais plongé dans ses yeux et ressenti ce feu intense. Il fallait que je m'y brûle. C'est comme si je l'avais promis au destin. Puis, j'ai dû partir et des années après, je suis retombée dans ses bras. Et ça a fini par être beaucoup plus chaotique. Et je me demande pourquoi j'ai consenti à tout ça. Pourquoi je n'ai rien vu venir. Pourquoi j'ai laissé tout ça s'installer et pourquoi je n'ai pas su me barrer tout de suite et facilement. Pourquoi j'ai traîné beaucoup de culpabilité. Pourquoi c'est si dur de partir malgré tout et pourquoi on veut tellement rester. Voici l'éclairage de Samy sur mes questions.
C'est aujourd'hui que tout le monde n'est pas répondant au phénomène de suggestion. Aussi, je pense qu'il faut accorder davantage d'attention à ce qui rend certaines personnes plus sensibles que d'autres au phénomène d'emprise, à la fois pour le prévenir, mais aussi pour le contenir, l'enrayer et le faire céder le moment venu s'il s'est installé pour une personne. Et c'est pour ça que je postule l'existence pour la victime d'un doute et d'une culpabilité qui est bien antérieure et préalable à la relation et qui porte sur le rapport qu'elle entretient avec elle-même et sur l'amour qu'elle se porte, générant ainsi une vulnérabilité particulière vis-à-vis des assauts narcissiques que sont la culpabilisation, le mépris, la dévalorisation.
Oui, donc en fait, finalement, il y a quand même peut-être un peu des personnalités qui peuvent facilement tomber dans l'emprise, en fait, finalement.
Exactement. Fort du fait justement de leur histoire, de leur vécu, bien sûr, ce qu'elles ont vécu a commencé déjà dans leur famille, avec leurs proches, de leur environnement humain, hein, pour le dire très rapidement, mais aussi du rapport qu'elles entretiennent à elles-mêmes. Et c'est aussi ce qui explique la difficulté justement que les victimes ont à quitter leur auteur et pourquoi justement elles retournent vers leur bourreau. Hein. Et
Oui, tout
pourquoi
à
la
fait.
culpabilité, hein, cette question de pourquoi la culpabilité, mais les victimes, la plupart du temps, elles expliquent que c'est précisément la culpabilité qu'elles éprouvent qui les font revenir vers l'auteur. Là où on pourrait s'attendre que la culpabilité les emmènerait à s'en aller, c'est précisément la culpabilité qui les y ramène, puisque ce sentiment est renforcé par les accusations que l'auteur profère à l'endroit de la victime. Les attributions causales auxquelles il se livre. Tu vois ce que tu me forces à faire. Tu fais tout pour me rendre dingue. Ou dans des formes beaucoup plus ambiguës. Je fais ça pour nous. Je fais ça parce que je t'aime. Et ça interroge le statut de la culpabilité comme une manifestation de sentiments hostiles de colère qui, du point de vue de la victime, à cette fois, n'est pas dirigée contre l'autre, mais dirigée contre soi-même. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Les victimes disent souvent à quel point, finalement, cette culpabilité qui les habite, c'est finalement une colère qu'elles retournent contre elles-mêmes. Elles admettent que c'est de leur faute qu'elles se font tabasser dessus, alors qu'en fait, dans les faits, rien ne peut, déjà rien ne justifie qu'on puisse porter la main sur quelqu'un, voilà, d'une part, et d'autre part, dans les situations de couple, c'est souvent pour des événements anodins qu'il y a justement un passage à l'acte et des violences physiques. Et cet ensemble d'accusations, ben, la victime l'admet, et elle l'admet parce que ben, derrière, il y a ce manque de confiance.
Finalement, on y retourne par culpabilité parce qu'ils ont réussi à mettre en place des mécanismes de déclenchement de culpabilité.
Et oui. Ah oui, il y a l'idéalisation, comme on l'a dit, mais ça, c'est présent dans tous les couples, hein, pas uniquement dans les couples où il y a de la violence conjugale et de l'emprise. Et par ailleurs, donc il y a ce truc où on est tout disposé à l'autre, et de notre côté, comme on l'a dit, il y a ces fragilités existentielles dans le rapport à soi, où l'un pense qu'il est supérieur et l'autre se sent inférieur. Et donc, partant, ce phénomène aussi d'isolement, hein, on coupe l'autre de toutes ses valeurs, de tout ce qui constitue en fin de compte ses bases qui lui permettent de prendre des décisions. En l'absence de tout ça, évidemment, ben, dépourvu de toute possibilité de se remettre à une autre personne qu'à l'auteur de la violence, la victime, accorde totalement crédit à ce que l'auteur va lui dire et donc à la culpabilité qu'il va générer en elle.
Et j'avais lu qu'il y avait une forme d'anesthésie, qu'en fait, finalement, les victimes, elles sont anesthésiées, donc elles y retournent parce que il y a une forme d'anesthésie et il y a aussi un espèce de besoin viscéral de l'autre, presque on ne pourrait pas vivre sans l'autre.
Ben, oui, ça prendrait, ça ressemblerait à s'y méprendre à une forme de dépendance. Hein, mais comme je l'ai dit, ce qui est vrai pour l'auteur est vrai pour la victime. Hein, il y a une dépendance affective parce que perdre l'autre, c'est se retrouver seul. Sauf que l'auteur, vis-à-vis de la victime, aura tout fait pour qu'à un moment donné, même quand elle doit prendre la décision de s'en aller, la victime se retrouve seule. Elle est coupée de tout son environnement. Bien souvent, coupée de son environnement, elle a honte aussi vis-à-vis de ceux qui lui ont porté assistance. Donc la honte avec la culpabilité sont des facteurs qui sont des freins pour la prise de décision de la victime. Oui, vis-à-vis de l'auteur, il y a justement ce fait de se défausser de toute responsabilité de l'attribuer à la victime et de l'accuser finalement des comportements dysfonctionnels qu'il a eus.
Oui. Oui, toujours. Il se victimise très souvent, en
Il
fait.
finit par se victimiser, tout à fait. Tout à fait. Parce que ça nous ramène encore à cette question du narcissisme, hein. Ils sont pour eux, il est impensable pour eux qu'ils aient tort. Il est impensable pour eux qu'il y ait quelqu'un qui ait raison vis-à-vis d'eux. Et il est impensable que quelqu'un soit supérieur à eux.
Les victimes, comme les auteurs, ont des failles et on finit tous sur un champ de ruines. C'est dur d'ouvrir les yeux sur sa situation. J'ai vécu dans la confusion et mon autre a aussi joué la carte de la détresse pour que je reste. Et je suis restée bien trop longtemps. On peut entamer un travail pour se libérer de l'emprise. C'est ce que nous aborderons avec Samy dans notre prochain épisode. Je reste en quête de réponses, pour moi et pour vous. Le spectacle doit continuer et nos sourires revenir pour de vrai. On se barre.
On se barre.
On se barre.